Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une dernière émission crème de la crème cette semaine. Une émission qui nous permettra d'entendre encore une fois un extrait de notre disque d'or de la semaine, la belle collaboration nouvelle entre Maxwell Farrington et le Super Omar. Nous retournerons encore une fois, une dernière fois en 1960 grâce à la machine à remonter le son. Et puis, vous entendrez quelques nouveautés légères et enjouées avec le groupe Donna Blue. Un peu plus sombre, un peu plus nihiliste peut-être, ou effrayante en tout cas, avec Frustration et Gwendoline. Et puis, on ira retrouver deux interprètes du spectacle de danse Hasard qui est donné ces temps-ci à Rennes pendant le festival Water. Proof. Nous terminerons crème de la crème comme le vendredi en général avec les morceaux de choix de Ronan Chaplin qui aujourd'hui s'est entretenu avec Michael qui nous dira tout son amour pour un titre du groupe Faust. Mais nous commençons avec un morceau d'une légèreté et puis d'une classe folle, le titre Aphrodite par le duo Donna Blue. Ils donneront bientôt des suites à leur premier album Dark Roses en 2022. Si vous êtes de grands fans de Nancy Sinatra et Lia Zellwood dans leur rencontre musicale, vous allez adoré ce titre, production impeccable, vidéo très chouette aussi, qui nous les montre dans des costumes faits maison, peut-être dans des ateliers loisirs créatifs faits par des enfants de moins de 8 ans, mais c'est assez mignon quand même, étonnamment. On écoute donc Aphrodite par Donna Blue pour débuter Crème de la Crème aujourd'hui. Bonne émission!
Crimson drink of your heart's desire.
Extrait pour cette semaine, mais rassurez-vous, l'album Please Wait, deuxième album en commun pour Maxwell Farrington et le Super Omar. Cet album rejoint bien sûr les plages musicales de Canal B parce qu'il est très très réussi, de la pop baroque, super bien orchestré, super bien chanté par le crooner australien Maxwell Farrington. Vous entendiez à l'instant le titre Begging's Not My Business. C'est pareil pour Frustration, c'est pas des gens qui veulent mendier un petit peu plus de clémence auprès des pouvoirs publics. Non, ils ont peut-être envie de la prendre de force, cette équité sociale. Voici le titre State of Alert, extrait de leur prochain album Our Decisions, qui sortira bientôt pour le label Born Bad.
Of your mind.
J'aurais pu vous les diffuser sans les présenter, vous les auriez reconnus forcément, les frustrations à l'instant. State of Alert, déjà entendu peut-être du côté de l'émission Take It or Leave It, cet extrait de leur album Our Decisions, toujours sans concession, les frustrations. Ça sortira sur Born Bad au mois de mars, tout comme d'ailleurs le deuxième album du groupe Gwendoline. L'album, lui, sortira aussi sur le label Born Bad. L'album, ça va être C'est à moi ça, vous en avez déjà entendu un ou deux extraits par-ci par-là. Voici Rock 2000 à présent, extrait aussi de cet album qui sortira le 1er mars. Si on peut parler de désenchantement régulièrement concernant la jeunesse française, eh bien là je crois que Gwendoline en sont un petit peu les représentants en titre de cette jeunesse désenchantée. Rock 2000 donc par Gwendoline.
Lord, take my soul. Lord, let me rest. Lord, take my soul, cause I'm so bone weary, can't meet the test. Working in the mines all my life, a hard and black coal has been my wife. Ripping it and tearing it all day long, I'm so dog tired and I can't go on. Never see the sunshine up above. Got no money, got no love. A cold dust ground deeper in my hide. Been working his body till it's dead inside. A cold mine,
cold mine,
cold mine. Dark and dreary cold mine. Started working, I was just a boy. Never known peace, never known joy. Years gone by, and now I find I'm still slaving down in number nine. Old mine,
old mine.
Oh, oh, cold mine,
old mine.
Yeah. Oh, 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 cold mine. Good Lord, help me, hear my plea. Let me rest in my misery. Take my soul where the sun will shine. Let me free from this dark and cold mine. Cold mine,
cold mine,
cold mine,
cold mine.
Yes, cold mine. Lord, help me, hear my plea. Let me rest in my misery. Take my soul where the sun will shine, setting me free from this dark and cold mine. Oh my,
oh my.
Un morceau sombre, un morceau excitant quand même, hein, ce Coal Mine par Mike Shaw. Morceau lugubre, on ne sait même pas où on est exactement, gospel country, rock'n'roll cryptique, on ne sait pas vraiment, mais c'est ça qui plaît aussi dans ce titre d'un musicien qui n'a pas fait grand chose, hein, sous son nom. Deux singles en 1958 et puis celui-ci en 1960. Vous le retrouverez plus facilement sur la compilation Chug A Lug, mélange de blues, de rhythm and blues, de popcorn, d'exotica, sorti en 2015 par le label allemand Stagoli. Toujours très recommandable leur production. Je vous rappelle le nom donc de cet artiste, Mike Shaw, et le titre Coal Mine. À suivre, court extrait de la bande son du spectacle Hasard, créé par Pierre Rigal, c'est lui le chorégraphe, et dansé à Rennes à deux reprises, ce vendredi et ce samedi à l'air libre, par ces deux interprètes, Johan Baran et Élie Tremblay, qu'a pu rencontrer Nadia. Justement, ça tombe bien, on écoute un extrait de la bande-son qu'on doit à Gwenaël Drapeau, et puis juste après, l'interview des deux danseurs que vous retrouvez donc pendant le festival Waterproof à l'air libre.
Dans l'écriture du programme, vous revenez sur l'étymologie du mot hasard, qui viendrait de l'arabe azhar, je ne sais pas exactement comment ça se prononce en arabe, mais qui désigne le jeu de dés. Ce jeu de dés, en fait, est le point de départ visiblement de la pièce sur le fait que quand on jette un dé qui a 6 faces, ça donne qu'un seul chiffre, et que ce geste répété produit une suite infinie, imprévisible, et que la danse, ça, elle ferait le pari de l'algorithme. Alors évidemment, Pierre Rigal a une formation de mathématicien. Cette question d'algorithme serait une combinaison de gestes, et cette combinaison de gestes, elle se traduirait comment, selon Pierre Rigal ?
Je ne suis pas Pierre Rigal, mais moi, en tout cas, de l'intérieur, cette notion d'algorithme, elle est beaucoup présente dès le début de la pièce. Donc je crois que normalement c'est aussi indiqué qu'on commence déjà à marcher, on fait des diagonales dès le départ. Et c'est un peu comme l'algorithme un peu de la vie, en fait, on jette les dés et on passe à côté de gens, on les voit, on les voit pas, on les frôle pas, et jusqu'à un point où on en percute une ou pas. Et en fait, du coup, tout ce hasard se joue aussi un petit peu comme ça, en tout cas, dans la construction, en tout cas, pour moi, de la pièce. Et tout est à chaque fois comme ça. Tableau par tableau, il y a toujours un peu cet algorithme qui revient sur la fin. Il y a beaucoup de moments d'improvisation, mais qui en fait créent des moments d'ensemble. Et en fait, tout ça est vraiment lié au jeu de dés en fait, qu'on a pu lancer.
Oui, par exemple, sur la scène de fin, on est en improvisation et c'est comme si on avait une boîte à outils avec plusieurs mouvements et nous on joue avec et ça crée une forme visuelle pour le spectateur qui est due complètement au hasard, mais ça crée des formes surtout géométriques dont nous on n'a pas forcément accès vu qu'on est de l'intérieur, mais voilà, ouais, le hasard il est présent un peu partout, même dans la construction de la pièce, comment les différentes scènes sont faites et s'entrecoupent et se suivent. Ça peut passer d'un univers à l'autre assez rapidement, donc on a vraiment cette sensation de switch, quoi. Comme si on lançait les dés et que d'un coup on les reprenait, on les relançait, donc on repartait sur une scène qui n'a rien à voir avec la précédente, etc., etc.
Il y a des traversées sur le plateau, vous l'évoquiez en diagonale, qui provoquent à un certain moment une collision, alors que le tempo va s'accélérer, le mouvement va se précipiter. Qu'est-ce que cette collision, elle va provoquer chez vous, les danseurs ?
Moi, je rentre en collision. Ça rejoint un peu, du coup, la première question. Enfin, il y a vraiment... La collision, en fait, elle évolue. Des fois, on se percute et on est énervé de s'être percuté. Il y a des fois, on se percute et, en fait, on se rend compte que... on se connaît de loin et, en fait, peut-être pas. Après, à chaque fois, c'est toujours un peu des petits scénarios comme ça qui évoluent dans l'espace.
Oui, parce qu'il faut dire que chaque danseur va réinterpréter cette collision. Et les collisions ont lieu avec plusieurs danseurs. Et cet accident va advenir autre chose à chaque fois.
Le but du jeu, en fait, c'est d'essayer de reproduire au plus proche possible une collision qui se passe dans la rue, etc. Donc on essaye de la reproduire au maximum, le plus réel possible. Mais après, oui, ça va finir sur un mouvement un peu plus dansé, etc. C'est comme si, avec une personne en particulier dans la pièce, chaque personne a une collision référente avec chacune des personnes différentes. Donc la nature de la collision, elle va pas forcément être la même si moi on parle de ma collision avec Johan ou on parle de ma collision avec Mathilde, c'est pas du tout les mêmes. Et du coup, l'histoire qu'on se raconte là-dedans, elle est pas du tout la même. Et vu que c'est des collisions qui, pour chacune d'entre elles, évoluent du début à la fin de la pièce, oui, il y a le temps de se raconter plein de choses et donc elles évoluent toutes d'une manière différente les unes des autres.
Qu'est-ce qui est écrit dans cette pièce et qu'est-ce qui est indéterminé dans la pièce ?
Tout le début est écrit. Le gros fil rouge de la pièce, le carcan, est vraiment écrit. Et à l'intérieur, il y a des endroits où on est beaucoup plus libre. Je pense que la plupart des solos sont libres,
oui,
sauf Mathilde. Mais c'est des consignes vraiment précises pour chacun.
Enfin, en réalité, le spectacle il est quand même très très précis et on a quand même peu d'espace à l'improvisation. Peut-être, je sais pas ce que t'en penses, mais sur les différents solos et sur la fin, mais en réalité, tout est très, très, très précis, à la fois dans l'espace, dans l'écriture chorégraphique aussi, et aussi, notre trajet, il est très précis derrière les rideaux, parce que le public, il voit pas, il a pas accès à tout ce côté du spectacle, mais on est très actif quand on sort de scène, pour, sans spoiler, mais... On a beaucoup de choses à faire, à tirer des fils, etc. Enfin, on participe intégralement, enfin, à part entière à la scénographie qui bouge. Et du coup, même tout ça, c'est très précis, en fait.
Si on reprend cette question de la précision et des choses qui sont écrites et non improvisées, qui ne sont pas une coïncidence, qui n'arriveraient pas par hasard, l'accident lui-même est prémédité. Et donc, entre hasard ou bien calcul, quelle est la part dans cette pièce ?
Peut-être un peu 50-50 quand même. Maintenant, comme ça a été dit au début, Pierre, il vient quand même des mathématiques. Donc déjà, tout ce qui est vraiment très écrit est vraiment très géométrique dans l'espace.
Je pense qu'il y répondrait mieux que nous.
Le hasard, il a pris place aussi beaucoup dans la construction de la pièce.
Oui, c'est ça.
C'est que même nous, 3 jours avant la première, on ne savait même pas le déroulé réel de la pièce. Et ça s'est un peu fait au fur et à mesure. Il y a eu plein de petits scénarios, puis bah non, puis bah peut-être, puis non. Et en fait, tout le hasard s'est créé comme ça. Et c'est pas improbable que demain, on change oui. quelque chose. Donc le hasard, il est présent pour nous. Des fois, quand on arrive, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Mais, et je pensais à une chose par rapport au hasard. Il y a aussi la différence de salle. C'est-à-dire que quand on joue dans une petite salle, il y a beaucoup d'endroits où, par hasard, on peut se retrouver soit à marcher sur quelqu'un, soit à être un peu plus proche de l'autre. Et du coup, il y a aussi comme ça, en fait, des petits rapprochements qui peuvent se faire, ou au contraire, des éloignements. On a eu 2-3 salles qui étaient vraiment immenses et où, bah, en fait, on se perdait complètement et ça joue aussi là-dessus.
Dans les précédentes pièces de Pierre Rigal, il y a toujours une part belle qui est donnée à la lumière. Là, il me semble dans les extraits que, évidemment, les jeux de lumière sont encore très présents, notamment avec des troubles, parce que ce qu'on perçoit n'est pas forcément ce qui se passe sur scène.
Sur ce spectacle-là, le jeu de lumière, il participe totalement à la sensation qu'on a on switch de scène, d'une seconde à l'autre.
La lumière, c'est Frédéric Stoll qui l'a fait. En fait, on a aussi travaillé avec un magicien pour des apparitions, disparitions. Et du coup, la lumière est très importante, comme le disait Ellie, par rapport au switch des fois de scène. Mais aussi, par exemple, pour faire des apparitions, disparitions. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des néons qui bougent.
C'est une scénographie, du coup, avec la lumière qui est tout le temps mouvante. Donc les choses, elles évoluent tout le temps. Et comme t'as dit, Johan, il y a beaucoup d'effets un peu de surprise qui créent la surprise avec des apparitions, des disparitions. Et c'est, du coup, il y a 6 néons, en fait, dans la pièce. On est 6 danseurs et il y a 6 néons. Ces néons, par exemple, ils structurent vraiment l'espace à chaque scène différente. Ils sont vraiment acteurs au même titre que nous pour... construire l'espace, le faire bouger, le faire évoluer, etc.
On évoquait la lumière qui donne un effet graphique à la pièce, mais vos gestes aussi semblent être graphiques et géométriques. Comment justement il a réussi à faire cette unicité entre vous pour que tous ces gestes graphiques fassent une forme géométrique pour le spectateur ?
Beaucoup d'impro. On a eu en tout 8 ou 9 semaines.
Ouais.
Ça dépend. Enfin, les filles ont fait une semaine de plus. Enfin, bref, c'est pas plus important que ça. Beaucoup d'improvisation autour des principes même du travail de Pierre, donc c'est-à-dire beaucoup d'angles droits. Donc on a beaucoup travaillé par deux pour se modifier le corps, pour essayer de dire non, 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 il faut que tu lèves plus le bras, plus la jambe. Et après, il y a aussi un peu... Il y a Mathilde qui est vraiment très souple, et du coup, elle a plus de prédisposition pour aller dans certains endroits. Et en fait, c'est assez libre, pour le coup, là, dans cette voie-là. Le hasard fait... plutôt bien les choses dans cette partie.
Les premières semaines de résidence, de travail qu'on a fait, l'enjeu, il était surtout là-dedans. On a fait beaucoup d'impro et qu'on parte tous à la fin de ces 2 semaines avec un espèce de bagage technique qui soit à peu près uniforme, où on s'est beaucoup entraîné justement à faire les angles les plus droits possibles, à les reproduire avec le plus de parties de notre corps possible, selon nos dispositions. Mais c'était vraiment l'enjeu des premières semaines de création, en tout cas.
Et aussi de l'audition. Parce que dès l'audition, il nous a plongé en fait directement dans cet univers-là, et ça a été le fil conducteur.
Les scènes, elles se répètent, mais elles sont malgré tout toujours différente. L'idée étant de provoquer, comme souvent dans son travail, un effet de surprise pour le spectateur. Et il dit quelque chose dans le texte de présentation du spectacle où il dit que il y a une combinaison de gestes que le spectateur essaie d'interpréter. Donc on voit bien que là, la place aussi du spectateur est intégrée dans celle de, des interprètes, comme vous. Et il dit que le danseur aussi est un interprète, mais ça, c'est une autre histoire. Et là, je me demandais, mais quelle histoire, vous qui êtes interprète, de quelle autre histoire il veut nous parler ?
Alors, si je comprends bien, je pense que c'est un petit peu par rapport au fait qu'on ait travaillé sur des personnages à l'intérieur. Je sais pas, les personnages de tout le monde. Moi, je sais juste que je suis un peu, pas le côté péjoratif, mais un peu le bouffon, un peu Pierrot, un peu clown, un peu... Bon, il y a beaucoup de choses qu'on a enlevées, mais même par rapport au costume, en fait, ils ont voulu avoir un petit côté un peu plus cartoon, un peu virtuel. Avatar, c'est ça le mot que je cherchais, en fait. Chacun un peu son avatar, et du coup, à l'intérieur, on continue, même s'il y a tous ces mouvements, tous ces gestes, à créer, en plus de ça, un petit personnage qui évolue.
Il avait la volonté qu'on ait tous un peu un personnage référence aussi. Après, pour certains, ça a mis plus de temps à se dessiner et à vraiment se concrétiser que pour d'autres. Enfin, je sais que toi, il est assez précis, ton personnage. Camille, il est très précis aussi. C'est un parcours qui a été un peu différent pour chaque interprète, justement. Il y en a, ça a mis plus de temps que d'autres à se dessiner. Et j'ai l'impression que c'est encore des choses qui bougent, même là, alors que le spectacle, il est fini et qu'il tourne. C'est encore des choses qui changent un peu en fonction des dates. Du coup, ce qui participe aussi à ce que le spectacle reste vivant, quoi.
Une notion de croire ou ne pas croire au hasard, évidemment, quand on est mathématicien, il y a sans doute quelque chose qui relève de la foi aussi, de la croyance. Est-ce qu'on croit ou pas à ces histoires de hasard ? Est-ce que vous, en tant qu'interprète, du coup, j'aurais pu la poser à Pierre, mais là, je vous la pose à vous, est-ce que cette pièce vous a permis d'avoir plus de certitude ou en tout cas de croyance ou de prendre ou perdre la foi ?
Alors, moi, personnellement, je ne crois pas forcément au hasard. Je pense que chaque chose est inscrite et si on le met dans un ordre, c'est pas pour rien. Et c'est... On pourrait dire, ah bah oui, c'est du hasard, du coup, tableau 1 et tableau 2 n'ont absolument rien à voir et en même temps, tableau 1 et tableau 2 pour avoir quelque chose à voir. Et en fait, c'est juste, est-ce qu'on veut créer du contrepoint ou non ? Et c'est comme ça que moi, en tout cas, je le perçois.
Plutôt dans la vie personnelle, moi, je sais qu'aussi, j'aime bien l'idée de pas croire au hasard, enfin, que les choses, elles arrivent parce qu'on les a provoquées ou non et... Ça m'aide de me dire s'il m'arrive un truc positif, c'est parce que j'ai travaillé pour l'avoir ou je l'ai mérité, etc. Mais même dans d'autres points de la vie, mais je sais que de manière générale, je crois pas forcément au hasard. Après, c'est différent là pour la pièce. Enfin, mais pour moi, le hasard dans cette pièce, il a été surtout pendant le processus de création. Où là, on l'a vraiment ressenti jour après jour, quoi.
Il y a un petit rappel dans la pièce, il me semble, où vous jetez un ballon de rugby qui rappelle le passé sportif ou en tout cas une des pièces phares de la compagnie et de Pierre Rigal qui est Arrêt de jeu, l'éloge chorégraphique du foot. Là, ça serait plutôt un ballon ovale, il me semble, et donc un ballon de rugby. Est-ce que le fait de jeter ce ballon, c'est un peu comme jeter les du début et donc d'avoir ces faces qui ne tombent pas, ou est-ce que c'est aussi une métaphore du hasard ?
Du coup, le ballon de rugby, bon, déjà comme Pierre est à Toulouse, le stade toulousain, forcément le rugby fallait qu'il arrive. Oh, je suis pas sûr, Pierre il est beaucoup foot aussi, le TFC c'est aussi une grande part de sa vie, mais du coup le ballon de rugby c'est le ballon qui est le plus incertain du fait de sa forme. Et en fait, donc Clara qui jette le ballon n'a jamais fait deux fois la même chose et du coup, c'est à chaque fois rejeter les dés. Donc soit des fois, elle le jette une fois parce que il arrive là où il doit arriver, et des fois, bah non, et du coup, on est obligé de le rejeter.
Mais j'avoue que pour nous, à ce moment-là, c'est un grand moment de... Bon, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que même... je trouve que c'est un moment même de l'intérieur qui est assez drôle, parce qu'il se passe toujours quelque chose de différent. Des fois, le ballon sort de scène, mais par les rideaux, enfin, il se passe des choses parfois assez drôles. Et puis, même niveau cardio, à ce moment-là, enfin, le moment du premier lancer de ballon, on sort de 10 minutes qui ont été extrêmement physiques, très très cardio. Parfois, du coup, il n'y a qu'un lancer de ballon s'il marche, et du coup, bah, tu as une minute de moins pour récupérer. Et tu dois continuer la pièce, donc même à l'intérieur, physiquement, il se passe vraiment jamais la même chose.
Il me semble que Camille Guillaume fait un moment un solo de popping. Le popping, effectivement, est une danse très géométrique, là, pour le coup, et puis très saccadée. En quoi ce solo vient intégrer cette danse de groupe et votre chorégraphie ?
On n'est pas la seule à en faire un, mais... Alors, personnellement, moi, il ne vient pas vraiment interférer parce que je ne vais pas l'avoir à ce moment-là. Comment il est arrivé là ? C'est tout simplement au fur d'improvisation... que Pierre a vu, et à la création un peu de nos avatars, il a décelé une certaine corporéité que Camille avait, et du coup il a voulu à un moment mettre en tout cas en avance cette corporéité.
Alors c'est pas un solo de popping, en tout cas Camille elle défendrait pas le fait de faire un solo de popping. Le popping c'est une discipline précise, mais Camille c'est sa danse quoi. Enfin, elle a une danse assez saccadée où elle a une place à l'interprétation quand elle est dedans, absolument magnifique en vrai. Et donc juste c'est un moment où elle est portée aussi par la musique de Gwenaël Drapeau qui fait la musique du spectacle, qui est une très belle nappe musicale. Et en fait le plateau, on a été tous très présents sur le plateau pendant les 20 premières minutes, et c'est le premier moment où, enfin, plus ou moins, mais où le plateau se vide vraiment. Et c'est vrai que nous, du coup, on n'y a pas trop accès parce qu'on n'est pas sur le plateau, donc on voit pas les choses en direct. Mais là, Camille, elle a vraiment un moment où elle a la place d'évoluer. Pour dire que c'est pas un solo de popping, c'est Camille qui danse.
Pour terminer, on a vu comment la lumière, comment la musique et comment les gestes se répondent dans cette pièce et dans les autres pièces qu'il a fait. En quoi celle-ci, elle serait différente des autres pièces de Pierre Rigal, selon vous ?
Alors moi, je suis un peu un mauvais élève parce que j'en ai jamais vu d'autres. Sauf si j'ai vu ces deux solos, mais juste en vidéo, donc j'ai jamais vu vraiment. Là où je pense que c'est une pièce qui est différente, c'est que c'est, il me semble, la première fois où il travaille qu'avec des danseurs contemporains. Il a fait Asphalt où c'est que des danseurs hip-hop. Dans Même, c'est, ils le disent eux-mêmes, c'est des groupes, c'est vraiment un groupe d'amis. Ils sont tous amis depuis très longtemps, beaucoup de musiciens. Il y a un danseur quand même dedans, sinon il y a du comédien. Enfin voilà, après c'est des solos de Pierre. Je pense que c'est peut-être par rapport au cast qu'elle est différente, parce que j'ai toujours l'impression que la lumière est toujours très présente dans ses solos, enfin dans ses pièces, particulièrement aussi dans ses solos, parce que ça joue vraiment. La musique est aussi toujours très importante.
Papo Tatito. Papo Tatito. Papo Tatito. Papo Tatito.
Ce vendredi ou samedi soir dans le cadre du festival Waterproof pour retrouver ce spectacle conçu par le chorégraphe Pierre Rigal et dansé ici par Johan Baron et Élie Tremblay. C'était les invités de Nadia dans cette interview où on a pu entendre aussi de la musique de Gwenaëlle Drapeau. Vous l'entendez dans le spectacle, hein, cette musique où vous entendiez à l'instant stage danse crabe, stage danse géométrique, stage danse Camille ou bien stage danse tapenée. On poursuit et on termine Crème de la Crème avec les morceaux de choix proposés par Ronan Chaplin et cette fois-ci c'est la 18e occurrence où Michael nous parlera de son goût pour un titre du groupe Faust.
Morceau de
bravoure.
Hacher le morceau. Recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau.
Le morceau.
Porter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau.
Morceau choisi.
Morceau de choix.
De choix.
De choix.
Morceau de choix.
Listen to the fish. Et c'est un morceau de Faust. Bah c'est ça, on est minot, on a 17-18 ans, les soirées c'est toujours la bataille, la playlist, de toute façon, qui va passer son entre deux verres, tu vois. Donc c'est toujours la bataille, et puis toujours les plus vieux, voilà, les plus vieux c'est eux qui amènent la matière, c'est eux qui ont le son nouveau quoi, parce que tu as pas, parce que t'as pas le blé, parce que quand t'as 17-18 ans t'as moins de blé que ceux qui en ont 20-25 quoi. Et donc voilà, et c'était le jour où il y en a un qui a mis ça, mais ça m'a retourné du coup, retourné parce que voilà, on retrouve un son brut quoi. Un son, voilà, comme s'ils avaient touché l'essentiel de la musique, en tout cas dans leur partie. Ce qui m'accroche en tout cas dans dans l'atmosphère, puis ce morceau, donc il y a le côté brut et spontané, ouais, ça c'est un peu ça je pense, le côté spontané dans cette musique. Mais le ressenti, ouais, il prend un peu au trip parce que c'est, il y a de la basse, ça tourne tout le temps, ça t'emmène en fait, le truc te lâche pas, et c'est boucle rythmique qui s'avance avec une batterie bien lofi mais bien lourde, ça te ramène un peu au sol comme ça, et ça prend toujours, ça me prendra toujours les tripes, le bid, et ça fout un peu le, ouais, ça me fait des frissons à chaque fois que j'entends ça, quoi. Et toujours j'ai l'impression d'être dans une, ouais, de pénétrer dans un autre monde, quoi, que ah, ça me nourrit bien, ouais. Des nuances de gris. De gris parce que, mais parce que le son me fait penser aussi au monde industriel, quoi. Mais ce qu'on entend dedans au milieu de... On pourra pas définir donc les instruments, on n'est pas clair dans l'oreille, que ce soit des guitares préparées ou du synthé, on sait pas trop, peut-être du modulaire, on sait pas. Et du coup, dans ce mélange d'harmonie, de son, de matière comme ça, parce que j'ai envie de parler de matière, parce que derrière c'est pas... voilà, c'est pas palpable dans le terme de musicalité, quoi. On peut pas dire c'est un do dièse, bim bim, quoi. Et du coup, on va entendre à la croisée de ces fréquences et de ces sons, on va s'inventer en fait. Chacun va l'entendre différemment, on va s'inventer des mélodies fantômes, les ghost mélodies un peu. Et je trouve que ça, sans le vouloir, ils ont contribué à une espèce d'harmonie que chacun en plus entend différemment suivant les oreilles. J'en suis persuadé, quoi. Parce qu'on perçoit des fréquences différentes suivant comment nos oreilles sont abîmées ou pas, ou comment elles sont éclairées ou pas en fait. La lumière à toutes les oreilles.
Thank you. Yeah.
Merci à Renaud pour la chronique Morceau de Choix. Merci à Michael qui nous parlait de Faust. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Crème de la Crème. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.